Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.net ou sur le net graphite.net 94.9, pardon. Aujourd'hui, c'est un peu les rattrapages. On continue les émissions de WE01, l'UV de l'UTC qui questionne les grandes problématiques autour du web et du numérique qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Donc, si vous écoutez Graphite, vous nous entendrez encore un petit peu aujourd'hui et demain avant les vacances. Donc pour cette émission, aujourd'hui, eh bien, je suis avec Mohamed. Salut Mohamed.
Oui, salut.
Alors du coup, toi tu étais tu as fait un travail de groupe avec Hamza qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc tu vas faire la restitution tout seul pour cette émission. Elle sera disponible en podcast dans quelques semaines sur tube.picassoft.net avec l'ensemble des sources. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler notamment de licenciement, c'est à toi.
Nous allons vous présenter le résumé de l'article de Stéphane Croza qui porte sur les licences libres. Puis nous allons introduire un concept qui porte sur la publication scientifique. Enfin, nous allons vous proposer une réflexion construite autour des deux points précédents. En avril 2020, Stéphane Croza publie sur le Framablog un article qui classe les contenus numériques selon ce qu'on a le droit d'en faire. Avant de continuer, nous allons vous définir ce qu'est une licence. Une licence, c'est un contrat qui définit nos droits sur un contenu. Est-ce qu'on peut juste le lire, le copier, le modifier, le partager avec d'autres? Croza propose 6 catégories de la plus restrictive à la plus ouverte. D'un côté, les sites à péage comme Mediapart, on paye un abonnement pour lire les articles, mais on ne peut ni les copier ni les redistribuer. De l'autre côté, le domaine public où tout est autorisé. Entre les deux, il y a les blogs classiques qu'on peut lire gratuitement, mais pas copier légalement. Les licences créatives communes qui autorisent certains usages, mais les licences libres. Les licences créatives communes proposent différentes combinaisons de restrictions. Certaines interdisent l'usage commercial, d'autres interdisent les modifications du contenu ou les deux. Avant de continuer, nous allons aussi vous définir ce qu'est une licence libre. Une licence libre, elle accorde 4 libertés sans restriction. Le premier, c'est utiliser le contenu comme on veut, comprendre comment il fonctionne, le copier et le partager. Et enfin, le modifier puis le partager. Sa version modifiée, attention, libre ne veut pas dire gratuit. On peut payer pour obtenir du contenu qui est libre. Parmi les licences libres, certaines peuvent ajouter une règle appelée le copyleft. Le copyleft oblige toute personne qui modifie le contenu à partager sa version sous la même licence libre. Par exemple, si une entreprise améliore un logiciel libre avec copyleft, elle doit rendre ses améliorations disponibles sous la même licence. Impossible de prendre un contenu qui est libre, l'améliorer puis le verrouiller. Croza défend le copyleft comme une protection nécessaire. Sans cette règle, les grandes entreprises pourraient prendre le travail de la communauté, l'améliorer avec leurs moyens, puis le vendre sous la licence propriété sans jamais partager leurs améliorations. Le copyleft utilise le droit d'auteur, non pas pour restreindre, mais pour garantir le bien commun et que ça reste commun. Pour Croza, c'est une stratégie pragmatique face au rapport de force économique et résume cette tension par une formule forte. Le copyleft donne au moins de liberté à l'humain, mais pas plus à l'humanité.
Merci beaucoup Mohamed pour cette présentation des licences. Vous avez choisi un extrait qui en fait reprend la conclusion de l'article du Framablog lu par Shantam qui justement explique que c'est un peu un hack, un piratage du droit d'auteur, un détournement du droit d'auteur que de faire des licences libres, et on l'écoute.
Les licences sont des contrats passés dans le cadre juridique du droit d'auteur. La loi étant supérieure au contrat, les licences libres restent soumises au régime du droit d'auteur. On notera l'adresse de leurs promoteurs qui ont réussi malgré tout à rendre possible une prise de distance d'avec les restrictions imposées par le droit d'auteur pour ceux qu'ils souhaitent.
Donc c'est bien ce que vous avez expliqué, hein. Tout, de base, toute création est soumise au droit d'auteur, mais on peut associer une licence qui dit en gros, bah, en fait, faites ce que vous voulez avec, avec mon œuvre, tant que vous respectez quand même les règles de base du droit d'auteur, donc voilà, citez la personne et tout ça. Et en plus, vous l'avez dit, bah, le copyleft, ça permet de dire, faites ce que vous voulez, mais par contre, bah, vous partagez aussi, quoi. Okay. Donc du coup là, vous avez ensuite travaillé sur le concept de publication scientifique. Vas-y.
Nous allons vous présenter notre concept qui est la publication scientifique. La publication scientifique est un document de plusieurs pages dans lequel est détaillé de manière exhaustive le processus de construction du document. C'est-à-dire la problématique à laquelle on souhaite répondre, le processus de recueil des données, les hypothèses faites à chaque étape, les expériences réalisées et travaux réalisés pour accepter ou rejeter ces hypothèses, les sources d'informations utilisées et les conclusions de l'étude. Et nous allons parler d'un point important qui est l'ensemble des publications doivent être rigoureuses et réfutables. C'est-à-dire qu'on puisse, en suivant le cheminement de l'auteur, infirmer ses dires si les résultats qu'on obtient sont sensiblement différents. Pour ce faire, l'ensemble du document doit être sourcé. Mais quel est le processus qu'on doit suivre pour le publier? Pour commencer, il faut chercher, puis à l'aide des conclusions de cette phase de recherche, écrire un pré-document aussi appelé pré-print ou pré-publication. Ce document est ensuite soumis à un éditeur. Ce éditeur est acquéreur des droits de diffusion sur la publication. Celui-ci le soumet à un collègue d'experts et c'est l'étape de la peer review. Ceux-ci sont chargés de relever les éventuelles incohérences de l'écrit. Une fois celle-ci transmise, l'auteur procède aux corrections nécessaires. L'éditeur peut ensuite diviser la publication scientifique selon le contrat d'édition signé au sein de revues scientifiques.
Alors, vous avez choisi un extrait donc, de la chaîne YouTube de l'Université Paris-Saclay qui parle des règles d'éthique de la publication scientifique, qui sont en lien bien sûr avec tout ce que vous avez expliqué, mais voilà, qui précise un peu à Paris-Saclay quelles sont les règles d'éthique.
Intégrité et responsabilité. Ces deux valeurs doivent vous guider à chaque étape de la publication de vos recherches scientifiques. Pour les respecter, la communauté universitaire a énoncé quelques principes éthiques à suivre. Vous devez présenter tous vos résultats avec transparence, qu'ils soient concluants ou non, qu'ils aillent dans le sens de votre hypothèse ou non. Vous devez fournir toutes les données nécessaires pour que la communauté puisse vérifier ou éventuellement contredire vos résultats. Attention toutefois à ne pas divulguer les données sensibles ou personnelles. C'est le sens du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Vous devez aussi respecter les travaux antérieurs aux vôtres, citer vos collègues ou vos prédécesseurs. Gardez toujours un esprit critique sur le sens de votre recherche, ses conditions de mise en œuvre et son impact sociétal. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher des référents éthiques ou intégrité scientifique de votre établissement. Il convient de penser l'éthique de la recherche avec pour défi la capacité d'exercer encore la liberté de décider quelle humanité nous voulons incarner, assumer et défendre.
Donc c'était Emmanuel Kirsch, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de Paris-Saclay. Et voilà, bah en fait, ça illustre bien aussi ce que vous-même vous avez fait en fait en WE01, c'est-à-dire essayer de produire non pas forcément du vrai, bien sûr, on essaye, mais surtout quelque chose que on va pouvoir contredire, c'est éventuellement vérifier, mettre à l'épreuve et ainsi essayer de créer un peu une connaissance qui est de plus en plus solide. Donc voilà, maintenant vous avez parlé des licences libres, vous avez parlé de publications scientifiques et en fait on va voir à travers votre articulation que il y a des enjeux très importants, très intéressants, donc c'est à toi.
Comme nous l'avons vu précédemment, les licences peuvent s'appliquer à tout contenu sur lequel le droit d'auteur s'applique. De fait, ils peuvent également s'appliquer aux publications scientifiques et s'appliquent déjà. Il existe deux types d'éditeurs. Les éditeurs dits open access, dont les publications sont consultables gratuitement, et les éditeurs payants, dont les publications sont accessibles en s'acquittant d'un abonnement. Toutefois, certains éditeurs proposent également un modèle hybride. une publication en open access à la carte qui, selon des enseignants-chercheurs de l'Université de Rennes, serait un non-sens financier. Et puisque les frais d'une publication s'élèveraient à 2 500 euros pour un choix hybride contre 1 500 pour le choix modèle payant classique.
Donc, si je comprends bien, c'est que en fait, si il y a des éditeurs, si jamais on veut rendre la publication en open access, donc que voilà, la communauté puisse y accéder, en fait, il faut payer plus cher pour la publication, alors que si jamais on garde un modèle où il faut que les chercheurs payent pour accéder, on paye moins cher. C'est ça la différence.
Oui, c'est ça l'idée derrière.
Ok, merci beaucoup.
Ainsi, on peut voir ici que dans ce cas de figure, le choix d'une publication en open access uniquement serait avantageuse. Néanmoins, certains éditeurs considérés comme prédateurs interdisent ce choix de double pratique. Afin de répertorier ces journaux où l'ensemble des licences possibles et des index ont été créés par les chercheurs universitaires, afin de répertorier l'ensemble des pratiques d'éditeurs, on peut citer la liste Predatory Journal ou encore l'Open Policy Finder de Cambridge. Par exemple, on peut voir le lien entre les concepts de licence et de publication, puisque le premier influence grandement l'accès au second, qui sert de matériau principal à la production de nouveaux contenus scientifiques. Le choix de licence a donc un impact sur la pérennité de la production scientifique. Une licence trop restrictive pèserait sur le budget de la recherche, tandis qu'une licence trop permissive pourrait également produire l'effet inverse, c'est-à-dire ne pas permettre le financement de la recherche, particulièrement pour les organismes qui touchent peu de subventions ou de financements externes.
Merci beaucoup, Mohamed. Oui, et d'ailleurs, c'est un sujet, en tout cas, qui est beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup de débats, de controverses, mais il y a plusieurs agences de financement de la recherche européenne qui ont lancé une grande coalition il y a quelques années, qui s'appelle le plan S, qui justement visait en gros à essayer d'obliger les éditeurs à publier en open access la recherche qui avait été financée publiquement, pour éviter d'avoir un espèce de double coût de l'argent public qui finance la recherche, et puis ensuite qui finance l'accès à cette recherche. Mais voilà, on n'y est pas du tout encore, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'éditeurs qui estiment qu'en fait ce serait insoutenable financièrement, ça fait l'objet de beaucoup de débats, donc bon, voilà, je pense que ça donne en tout cas matière à réfléchir. Du coup, vous avez aussi écrit une conclusion.
Oui, nous allons passer à la conclusion et à une petite ouverture. Comme nous l'avons vu, licence et publication scientifique font pair, et les établissements et chercheurs doivent donc étudier la question du choix de licence de manière judicieuse et afin que leur publication puisse être diffusée dans les conditions qui leur conviennent. Et pour répondre à ce besoin, certaines universités ont même créé leur propre licence, comme le cas du MIT, avec la licence éponyme qui permet, selon les termes de la dite licence, à toute personne recevant le logiciel et le droit illimité d'en user, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer et le vendre. Et l'incorporer dans une autre licence. La seule obligation est d'incorporer la notice de licence et du copyright dans toutes les copies.
Donc oui, en fait, la MIT, c'est une licence qui est très très connue dans le monde du logiciel, qui est, on dit que c'est une licence qui est très permissive. Comme tu as expliqué, il suffit juste de dire, bon bah voilà, j'ai pris ce bout de code-là à quelqu'un d'autre, il était sous MIT, c'est cette personne qui l'a codé, et c'est fini, quoi. On peut en faire ce qu'on veut. Et donc c'est pas une licence copyleft. On va faire, avant de terminer l'émission et de passer peut-être à une ou deux questions, on va écouter de musique. Donc est-ce que tu peux nous dire la musique que vous avez choisie, Mohamed?
Nous avons choisi une musique de Alpha One
qui s'appelle Saint-Domingue, c'est ça?
Saint-Domingue, oui.
C'est parti.
Mon rap de Paris augmente le tarif. 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 Mon rap de Paris, j'écris ça dans un hôtel, à Minneapolis, squad 9 pour les miens depuis que l'esclavage est aboli. Rien à part le rap, le sport, les fours, la tess, la hesse, gaspiller nos thunes dans les sapés, les caisses.
C'est quoi faire du rap?
Créer un personnage, faire le clown, c'est pas une affaire du rap, mais je dois faire à manger, je dois faire du rap, la vie est stressante. Faire des chansons est ma médecine, je cherche les trésors depuis mes 13 ans. Besoin pressant, royal, comme Mohamed 6, dis-moi merci parce que ma présence est un présent. Je prône l'autosuffisance et l'entraide. Je laisse les poucaves traîner entre elles.
Je laisse les poucaves traîner entre elles.
Un œil qui louche pour voir qui va attaquer en traite.
Un œil qui louche pour voir qui va attaquer en traite.
Si j'avais su que les fantômes du passé me hanteraient, j'aurais fait les choses bien,
bien, bien.
C'est pour toutes les go, moche belle, avec les gros ou les petits seins. Et c'est pour mes frères, mes gars, la mif, mes petits zinc. Je l'avoue, j'ai eu envie de faire des tubes avec des rimes simples. Quand j'ai vu la dernière pub pour le série 5, le secret du ciel est scellé. Si on crève, il reste nos scellés. On laisse nos CV, on laisse nos traces comme une visière trop serrée. J'ai une équipe et je reste avec, que ce soit sous la neige ou l'averse. Ils seront Alcine, balle traverse ma veste. Toujours les mêmes galères de cartes, vise à déficit. Rien ne change à part les visages des villes. Si DJ Lo, c'est mon DJ. Que j'aime pas la vie, je lui réponds que j'aime pas la vie que j'ai.
Je pense à demain, je déteste l'usine. Je reste lucide, je pense à demain, je déteste l'usine et rêve de sa domaine. Je reste lucide, je pense à demain, je déteste l'usine.
De retour sur Graphite 94.9 avec Mohamed pour la fin de cette émission. On a parlé de licence libre, de publications scientifiques et bah, tout simplement de est-ce que les publications scientifiques devraient être ou comment sont-elles mises à disposition des chercheurs et des chercheuses et du public. Et puis à la fin aussi, Mohamed, tu nous as parlé d'une des premières licences libres, en tout cas la licence MIT, qui permet en fait de faire un peu tout ce qu'on veut quand on récupère un programme qui a été associé à une licence MIT, du moment que bah, on cite l'auteur et qu'on reproduit la licence. Et au début, tu nous avais aussi parlé du coup du principe de copyleft, où là, par contre, ça oblige les personnes qui récupéraient, par exemple, un programme moi que j'ai écrit, à diffuser leurs modifications, en tout cas diffuser leurs améliorations, ce genre de choses. Est-ce que tu aurais quelques exemples de, en fait, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça produit concrètement dans la vraie vie d'associer une licence MIT ou une licence copyleft, soit voilà à des codes des programmes informatiques ou bien à des publications, quel genre d'effet ça peut produire? Voilà, que ce soit plutôt des choses qu'on estime désirables ou indésirables, peu importe. Mais ça change quoi ?
Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple de l'Amazon qui récupère des logiciels qui sont sous licence MIT et peuvent rajouter des modifications et le commercialiser, ce qui fait qu'on n'est plus dans le libre. Et il est parfois, dans ce cas, il est parfois préférable d'utiliser le copyleft qui va imposer le fait qu'on publie les forces, qui va obliger à Amazon de publier le logiciel qui est sous licence copyleft, par exemple.
Ben, merci beaucoup. En effet, je pense que c'est deux manières différentes d'envisager les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une manière qui est, en fait, ce qui compte, c'est la liberté des gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent avec le code, s'ils veulent le garder pour eux. Voilà, c'est une façon, c'est presque philosophique de voir les choses. Et une autre qui est un peu sur la réciprocité. Je donne quelque chose, mais en échange, j'aimerais bien récupérer des choses s'il y en a. Voilà, donc c'est pas une question là de jugement moral, mais c'est deux façons de voir les choses qui ont beaucoup impacté la publication scientifique et le logiciel. Ok, merci beaucoup en tout cas Mohamed pour ta présentation. Merci Hamza pour la préparation aussi et le travail, même si il n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver d'ici une à deux semaines cette émission sur tube.picassoft.net avec l'ensemble des sources. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés. Bon après-midi, à bientôt sur Graphite.